Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 54e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus, pourquoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Précédents épisodes, nous parlions de punk et de post-punk. Nous sommes allés voir les États-Unis dans le dernier épisode avec la No Wave. Restons donc dans le pays pour voir un autre genre issu du punk, toujours aussi underground, mais bien plus violent et bruyant, le hardcore. L'histoire du punk hardcore est étroitement liée au contexte social, économique et politique dans lequel il est né. À partir de la fin des années 70 et du début des années 80, le punk hardcore est apparu en réaction au climat culturel et politique général de l'époque, en particulier aux États-Unis. L'un des premiers groupes précurseurs et des plus influents de ce genre, même s'il n'est pas vraiment considéré dans le punk hardcore encore, c'est Dead Kennedys. Formée à San Francisco en 78, la musique du groupe se caractérise par des tempos rapides, des guitares agressives et des paroles politiquement chargées qui critiquent souvent le consumérisme américain, le militarisme et l'injustice sociale. Le groupe se forme à la suite d'une petite annonce rédigée par East Bay Ray, à laquelle Jello Biafra, le chanteur Eric Butcher de son vrai nom, répond. Ils sont rapidement rejoints par le bassiste Clowns Floride et le batteur Ted, et un second guitariste qui devient célèbre sous le nom de 6025. Ce dernier quitte le groupe dès mars 79 alors que Ted sera fin 81 remplacé par Darren Henley Pellegro. En 79, Jello Biafra se déclare candidat au poste de maire de San Francisco. Sa candidature, qui ressemble au départ à une plaisanterie, avec des points dans son programme tels que les businessmen doivent porter des costumes de clown quand ils sont à l'intérieur des frontières de la ville, mais finalement prise au sérieux par un nombre non négligeable d'électeurs, puisque Biafra termine quatrième sur 10 candidats. La même année, Jello Biafra forme avec Greg Chin de Black Flag le label Alternative Tentacles, qui publiera la plupart des disques du groupe. Les premiers singles suivent California Uber Alice en 79, qui est une charge violente contre Jerry Brown, alors gouverneur de Californie. I am Governor Jerry Brown. My arm smiles and never frowns. Soon I will be president. God of power will soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. Your kids will meditate in school. Your kids will meditate in school. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice, California. We'll be right back. premier album des Dead Kennds, Fresh Fruits for Rotting Vegetables, en 80, est devenu un des classiques du genre et a contribué à faire du groupe l'une des principales voix de la scène punk. Il comprend le single California Uber Alice, mais aussi Kill the Poor ou Holiday in Cambodia pour les plus connus. Et une de mes préférées personnellement, Let's Lynch the Landlord. Le groupe clé de cette époque est Bad Brains, qui s'est formé à Washington D.C. en 77. La musique du groupe combine des éléments de punk, de reggae et de heavy metal, et ses concerts sont connus pour leur énergie intense et leur rythme frénétique. Ce sera le premier groupe à être classé dans le hardcore. La musique de Bad Brains reflète les croyances rastafari du groupe et son engagement dans l'activisme social et politique, en particulier sur les questions de justice raciale et de brutalité policière. Le premier album éponyme du groupe en 82 est largement considéré comme un classique du genre et a contribué à inspirer d'innombrables groupes dans les années qui ont suivi. La légende, le groupe qui ne se considérait même pas comme faisant un nouveau style de punk, qu'il faisait du hardcore, il jouait vite juste parce que le batteur, qui est maître du tempo donc, voyait une fille qu'il voulait aller draguer dans la foule et jouait du coup super vite pour que le set dure moins longtemps, au grand désarroi de ses compères qui avaient du mal à suivre. Et ce serait comme ça que le hardcore serait né. Hey! Alors que le punk hardcore commençait à prendre de l'ampleur au début des années 80, un certain nombre d'autres groupes influents ont vu le jour ou atteint du succès à ce moment-là. L'un d'entre eux est Black Flag, qui s'est formé à Los Angeles en 76. La musique du groupe se caractérise aussi par des guitares agressives, des tambours percutants et des paroles provocantes qui critiquent souvent la société et la culture américaine. L'album Damaged en 81 de Black Flag est devenu une des pierres de touche du genre punk hardcore et a contribué à faire du groupe l'un des plus importants et des plus influents de son époque. Autre groupe influent de cette époque, c'est Minor Threat, qui s'est formé à Washington DC en 80. Ils ont aussi des tempos rapides, des guitares percutantes et des paroles à caractère social qui abordent souvent des questions telles que la toxicomanie, la violence et le conformisme. L'EP Out of Step en 83 de Minor Threat est devenu un des classiques du genre et a contribué à faire du groupe l'une des principales voix du mouvement Straight Edge, qui prône un mode de vie sans drogue ni alcool, car pour faire la révolution, faut être en forme. Connaîtra la controverse en 81 pour la chanson Sorry of Being White, écrite par le chanteur Ian McKay, disant toute sa frustration de se faire accuser d'être esclavagiste et pour la ségrégation. Ayant grandi à Washington dans les écoles publiques à majorité noire, le groupe se fera donc accuser de racisme alors que Ian affirme qu'il voulait faire une chanson antiraciste. En gros, ne me prêtez pas des intentions ou des pensées que je n'ai pas juste à cause de ma couleur de peau. Un vétéran nazi dira qu'il a adoré cette chanson. Minor Threat répondra à tout cet engouement des fachos pour leur chanson en signifiant bien clairement qu'ils sont antifascistes et qu'ils détestent toute l'extrême droite. Ah, Parmi les autres groupes influents de cette époque, citons les Misfits, formés dans le New Jersey en 77, dont la musique mêle l'imagerie des films d'horreur à l'agressivité du punk rock. Aussi les Circle Jerks, formés à Los Angeles en 79 et connus pour leur musique rapide et leurs paroles irrévérencieuses. Et bien sûr, les Suicidal Tendencies, formés à Los Angeles en 80, qu'on reverra sûrement plus tard car ils ont aussi initié quelque chose de nouveau en soi, ayant eu la sécurité intérieure et la CIA enquêtant sur eux pour des soupçons de terrorisme à cause de leur chanson sur leur premier album éponyme I Shot the Devil, J'ai tiré sur le diable étant ici Ronald Reagan, alors président, étant parmi les premiers à ramener aussi le punk et le skateboard qui a été inventé pas longtemps avant en et qui mélange le punk rock au heavy metal et au funk pour créer un son unique et influent. Yeah. L'émergence du punk hardcore à la fin des années 70 et au début des années 80 peut être considérée comme une réaction au climat culturel et politique général de l'époque. Aux États-Unis, le pays était aux prises avec un certain nombre de problèmes sociaux, économiques et politiques, notamment une inflation élevée, un chômage croissant et un sentiment de désillusion grandissant à l'égard de la politique et de la culture dominante. Dans le même temps, un certain nombre de mouvements sociaux et politiques prenaient de l'ampleur, notamment le mouvement féministe, le mouvement des droits civiques et le mouvement anti-guerre. Ces mouvements reflétaient un mécontentement croissant à l'égard du statu quo et un désir de changement, et leurs idéaux et objectifs se reflétaient dans la musique et la culture de la scène punk hardcore. L'éthique DIY du punk hardcore reflète également une tendance culturelle plus large à l'autosuffisance et à l'autonomie, alimentée en partie par l'incertitude économique et un sentiment croissant de désillusion à l'égard des institutions donc et des autorités traditionnelles. De nombreux groupes de la scène punk hardcore enregistraient et publiaient leur propre musique, organisaient leurs propres concerts et tournées et faisaient la promotion de leur musique par le biais du bouche à oreille et des fanzines. Cette approche DIY a contribué à développer un sentiment de communauté et d'autonomie parmi les fans et les musiciens et est devenue une caractéristique déterminante du genre. C'est en ça aussi que le punk hardcore et la culture skate naissante aux États-Unis sont étroitement liés. Ces valeurs, les deux mondes les partagent et c'est donc logique que les skaters appréciaient grandement cette musique. En plus, c'est parfait comme bande-son pour faire du skate, ça fout la pêche, c'est badass. Vous pouvez vous en rendre compte en matant des vidéos de skate sur fond de punk sur internet, c'est objectivement très stylé. Conscience politique et sociale de la scène punk hardcore se reflète également dans les paroles de nombreuses chansons. Des groupes comme Dead Kennedys, Bad Brains ou Minor Threat ont utilisé leur musique pour critiquer les injustices et les inégalités de la société américaine, en attirant l'attention sur des questions telles que les brutalités policières, le racisme, l'homophobie et l'exploitation économique. Leurs chansons étaient souvent conflictuelles, poussant les auditeurs à affronter des vérités gênantes sur le monde qui les entoure. De nombreux groupes de la scène punk hardcore ont également adopté une philosophie straight edge qui prône un mode de vie sans drogue ni alcool, on en a déjà parlé. Cette philosophie est apparue en réaction aux excès des scènes punk et rock'n'roll des années 70, souvent associées à l'abus de drogue et d'alcool. Des groupes comme Minor Threat et Youth of Today ont utilisé leur musique pour promouvoir un mode de vie positif et sain, et pour critiquer le nihilisme et les tendances autodestructrices de la scène punk au sens large. Prejudice. I mean, your point. What makes it back? Think you're going to misadminister it first to death? The more that you argue, the men that you get. Well, then they're gonna fill my truck with hate like that. Prejudice. Look at you. L'émergence l'émergence de la scène punk hardcore a eu un impact profond sur la musique et la culture américaine des années 80. L'accent mis par le genre sur le bricolage et l'autosuffisance a contribué à inspirer une génération de musiciens et de labels indépendants, dont beaucoup ont connu les succès dans les années qui ont suivi. Des groupes comme Sonic Youth, Fugazi et Nirvana, par exemple, ont tous cité le punk hardcore comme une influence majeure sur leur musique et leur approche de l'industrie. La conscience politique et sociale de la scène punk hardcore a également contribué à façonner le paysage culturel plus large des années 80, notamment en ce qui concerne les questions de race, de genre et d'identité. Nombre des idéaux et des objectifs de la scène punk se sont reflétés dans les mouvements culturels et politiques plus larges de l'époque, notamment le mouvement féministe, le mouvement des droits civiques et le mouvement des droits LGBTQIA+, et avec le début de récupération par l'extrême droite, on voit une vraie levée de boucliers des groupes qui diront clairement que les fachos ne sont pas acceptés. Bien au contraire, ils seront même frappés.
Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take 4.
En conclusion, l'histoire du punk hardcore de la fin des années 70 à la fin des années 80 est donc étroitement liée au contexte social, économique et politique dans lequel il est né. Le genre est apparu en réaction à ce climat culturel et politique général de l'époque, en particulier donc aux États-Unis, et reflétait un sentiment croissant d'insatisfaction à l'égard du statu quo et un désir de changement. Des groupes comme Dead Kennedys, Bad Brains ou Minor Threat ont utilisé leur musique pour critiquer les injustices et les inégalités de la société américaine et ont contribué à façonner le paysage culturel de l'époque. L'éthique DIY et la philosophie straight edge de la scène punk hardcore ont également eu un impact profond sur la musique et la culture américaine dans les années 80, inspirant une génération de musiciens et de labels indépendants et façonnant les mouvements culturels et politiques plus larges de l'époque. Et puis Subculture, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM ou canal 9C du DAB+, local sur Montpellier et alentour. Ou via l'onglet écouter le direct sur le site radiofmplus.org. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents et celui-ci en podcast toujours sur radiofmplus.org. Et moi je vous dis vive l'anarchie et fuck Nazis. And I say don't like it, and I know it won't be hanging. Try again. Almighty watching, I can try.